France Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
Ce jeudi, des manifestations ont lieu partout en France avec le mouvement Stand Up for Science, en réaction au démantèlement des sciences outre-Atlantique. Que devient la recherche scientifique aux États-Unis et pourquoi faut-il s'en préoccuper en Europe ? Nous envoyons ce SOS pour lancer un avertissement clair. La science américaine est en train d'être décimée. C'est l'appel de 1900 scientifiques dans une lettre ouverte publiée lundi. Historiquement, la science était un pilier de l'État américain, avec des licenciements massifs. Et le gel des financements, le climat, la recherche biomédicale et les sciences humaines et sociales sont les domaines les plus touchés. Mais toutes les sciences vont être pénalisées. Pour la recherche scientifique mondiale, quelles seront les conséquences de ce nouvel obscurantisme ? Trump et les sciences, un climat étouffant. Amie Dahan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche émérite au CNRS, historienne des sciences spécialisée dans les interactions entre sciences et politiques au sujet du climat. Bernard Lahire, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, directeur de recherche CNRS et nous sommes en ligne avec Dominique Costagliola, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes épidémiologiste et directrice de recherche émérite à l'INSERM et membre de l'Académie des sciences. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation ici dans nos studios à France Culture. Et merci à vous qui nous écoutez à toute heure en podcast. N'hésitez pas à vous abonner à notre fil podcast sur l'appli Radio France et n'hésitez pas non plus à nous suivre sur Blue Sky tous les jours. Nous postons pour vous de nombreuses ressources et à retrouver sur notre compte @sciencesCQFD. Alors pourquoi un tel mouvement anti-science aux États-Unis ? Pourquoi ces attaques sur la recherche biomédicale ou climatique représentent aussi une menace pour la santé publique ? Et pourquoi faut-il être donc très vigilant aussi en Europe ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais d'abord, on commence avec un panorama, un medley, un montage radiophonique. Après l'investiture de Donald Trump le 20 janvier 2025, les attaques contre la science se sont intensifiées depuis la mi-février. En voici une liste non exhaustive.
Tom Di Liberto, scientifique au Centre de recherche océanique et atmosphérique, a dû quitter ses bureaux du jour au lendemain. Comme 1000 autres collègues, il a été licencié par la nouvelle administration de Donald Trump.
Chelsea est docteur en sciences de l'environnement, spécialiste de la conservation marine. Ce printemps, elle devait rejoindre une agence gouvernementale, mais avec l'élection de Trump, toutes les portes se ferment. En cause, les coupes brutales dans la recherche et les licenciements massifs de fonctionnaires, notamment dans le domaine du climat.
Licenciements par milliers, subventions gelées, recherches arrêtées. L'administration de Donald Trump multiplie les coupes budgétaires visant des programmes scientifiques. L'onde de choc atteint aussi les centres de recherche en France, où un collectif de scientifiques, Stand Up for Science, vient d'être lancé. Par solidarité, mais aussi parce qu'ils sont inquiets des conséquences sur la recherche mondiale.
Pour moi, ce qui est en train de se passer, c'est peut-être pire que le McCarthyisme, parce que ce qui est attaqué, ce ne sont pas les gens qui sont attaqués à cause de leurs opinions politiques, mais à cause de la science qu'ils font.
Assaut de Donald Trump et Elon Musk contre l'enseignement, mais aussi contre la prestigieuse NASA. Lundi, l'agence spatiale américaine a annoncé le licenciement d'au moins 23 personnes, dont sa scientifique en chef, Catherine Calvin. Coprésidente du GIEC, elle avait été nommée en 2022 par Joe Biden.
Quand on s'attaque à la NASA, par exemple, on voit bien ce qu'il y a derrière. Il y a l'idée de faire fusionner la NASA et SpaceX, la société aérospatiale d'Elon Musk.
Voilà, merci à Olivier Bétard, notre réalisateur, pour ce montage. Amie Dahan, à l'écoute de ce montage sonore, en tant qu'historienne, l'ampleur de ces attaques contre les sciences, c'est quelque chose d'inédit, pire que le McCarthyisme ?
Je crois, parce que le McCarthyisme, c'est quand même, c'était une période qui a été une période de gloire et d'étroite collaboration entre la science et l'État américain. Vraiment, on peut dire que les sciences aux États-Unis entre 1940 et 1965, je dirais, c'est vraiment une période de bénie, d'expansion, où les scientifiques sont au cœur de l'État, ils sont chéris par le gouvernement. Bon, ils ont joué un rôle très important pendant la guerre chaude, Mais à partir de 1945, enfin après l'accession de Truman qui succède à Roosevelt, il continue ça. Il y a un énorme Office of Scientific Research and Development où les scientifiques sont vraiment déconseillés du prince tout le temps. Et ils sont, on leur donne beaucoup d'argent pour tout. C'est-à-dire à la fois pour, évidemment, la bombe et la bombe A, c'est sûr, à Los Alamos, mais ça continuera avec la bombe H, mais aussi à la Rand Corporation, où c'est un think tank qui est véritablement subventionné et fréquenté par les plus hauts personnages, à la fois de l'État et des sciences, parce qu'il y a fusion, de communication, etc., par, évidemment, pour l'espace, ça sera le programme Apollo et tout ça. Et puis, mais tous les domaines, l'ordinateur, la prévision météo, enfin tout ça, quoi. Et donc là, maintenant, on a un backlash, on peut dire, mais inédit. Parce que même quand, après 65-70 et la fin du siècle, il y a eu une montée des inquiétudes environnementales, on a vu qu'il y a eu le paysage, c'est un petit peu différenciés, je dirais, suivant les domaines scientifiques. Mais quand même, la science restait très importante et c'est comme ça que la science américaine est quand même la première du monde, en financement, en force, en nombre.
Dominique Costagnola, pourquoi ce sont, à vos yeux, la santé, le climat, qui sont les domaines, les sciences humaines et sociales, hein, qui sont les domaines les plus touchés? C'est parce que tout ça, c'est lié?
Tout ça, c'est lié d'abord sur une campagne qui disait quand même « drill, baby drill », c'est-à-dire exploiter les ressources du pétrole le plus qu'on peut, et donc dénier tout ce qui est relatif au réchauffement climatique, prétendre que ce serait positif parce que plus de gens seraient au bord de la mer. Vous voyez, des choses qui sont absolument considérables, mais disons au profit des gens qui vont tirer parti de l'exploitation du pétrole, éliminer tout ce qui concerne la surveillance donc du climat, tout ce qui est les observatoires internationaux, y compris effectivement dans l'espace, d'où l'attaque contre les gens de la NASA. Et en termes de santé, eh bien, promouvoir les théories les plus obscurantistes des personnes qui ont été choisies pour gouverner la politique de santé, que ce soit le ministre Kennedy Jr. ou que ce soit le nouveau président du NIH qui avait des positions extrêmement particulières au moment de la Covid. Vraiment quelque chose qui dit que si vous ne travaillez pas pour la santé de l'ensemble, eh bien, vous ne servez à rien, c'est injuste, et donc vous ne pouvez pas travailler sur les besoins particuliers des personnes. Donc ça nie des pans entiers de la recherche, y compris par exemple la recherche sur la santé des femmes.
Bernard Lahire, votre réaction, une première réaction à l'écoute de ce premier panorama, de ce premier tour d'horizon de ce qui se passe aux États-Unis.
Ben, on entend dans le document sonore qu'on a entendu tout à l'heure le fait qu'il y a des intérêts économiques qui sont en jeu à chaque fois. Le rapprochement de SpaceX et de la NASA. L'idée aussi que pour redevenir une Amérique puissante économiquement, qui est en concurrence avec la Chine, ben il faut pas avoir des gens qui vous empêchent de produire. Et qui empêchent de produire, ben les gens qui disent ben il y a un problème de dérèglement climatique, etc. Donc, enfin, Trump a quand même dit une chose assez délirante, hein. Il a dit que c'était une histoire inventée par les Chinois pour empêcher l'Amérique de produire. Bon, c'est très clair, enfin, son délire est très clair. Je ne sais même pas s'il croit véritablement à son délire, hein, parce que je crois que c'est plus compliqué que ça. Mais en tout cas, ce qu'ils veulent, c'est ne pas être empêchés de produire et toujours davantage et d'essayer de reprendre la main dans la concurrence économique internationale. Donc il y a beaucoup d'intérêts économiques. Et puis, côté sciences humaines et sociales, ben, il est clair qu'il n'aime pas en fait tout ce qui rappelle qu'il y a eu des mauvais traitements de population. Il parle d'histoire divisive, clivante en fait. Il ne veut pas de ça. Il est en train d'enlever l'argent au Smithsonian Institute, qui est quand même une série de 21 musées qui rappelle l'histoire de l'esclavage, qui rappelle ce qu'on a fait aux populations amérindiennes, etc. Et puis, il aime pas qu'on parle des inégalités hommes-femmes, des inégalités de classe, de race, entre guillemets, etc. Donc, c'est... Il y a à la fois la défense d'un ordre social et puis des intérêts économiques en jeu. Voilà.
Cette guerre, en effet, culturelle que vous êtes en train de décrire, Dominique Costagnola, on le retrouve également hein, sur cette mesure, c'est la censure des mots. L'administration a identifié dans la base de données de la National Science Foundation des recherches à abattre. Il y en a près de 3500 en tout. Ça s'appuie sur près de 700 mots-clés comme changement climatique, pollution, genre, trauma, femme, mais pas homme d'ailleurs. Toutes les recherches qualifiées de woke sont suspendues et ne sont plus financées, Dominique Costagnola.
Oui, mais même des mots comme biais ou comme inclusion. Quand vous êtes épidémiologiste, votre projet de recherche doit forcément inclure une section où vous expliquez comment vous allez essayer de limiter les biais dans votre étude. Si vous n'avez pas le droit de dire ça, vous ne pouvez pas faire de la bonne épidémiologie. Donc, vous voyez, c'est une situation qui est absolument hallucinante du point de vue de la science. Bien entendu, tout ce qui est travail sur les inégalités sociales de santé, donc au fond, d'une certaine façon, tout ce qui est l'interaction entre sciences sociales et santé, ça aussi, c'est quelque chose de tabou. Parce qu'on n'a pas le droit de dire que ça existe. On n'aurait pas le droit de dire que l'espérance de vie est très différente suivant le niveau socio-économique, par exemple. Donc ça, c'est absolument terrorisant. Et en ciblant spécifiquement tout ce qui concerne le climat et la recherche en biologie et en santé, on s'en prend aussi finalement à l'ensemble de la recherche dans la mesure où on va chercher ces mots-clés dans tous les projets, mais aussi quand en limitant les coûts indirects, quand vous faites une demande, vous demandez le financement pour vous, mais vous demandez une partie qui est pour payer l'infrastructure où vous êtes, vous avez de l'électricité, vous avez des équipements pour faire les manips que vous avez prévues, et ça impacte l'ensemble de toute la science qui se fait dans les universités, à tel point que certaines universités, cette année, ont décidé de suspendre les recrutements de nouveaux doctorants parce qu'ils n'ont aucune certitude sur ce que va être leur budget. Une phase aussi un peu de sidération et d'aller vers des procès, pour dire que c'est pas légal que le président décide de ça parce que c'est pas lui qui a ce pouvoir, c'est le Congrès. Et puis maintenant, on sent quand même que une certaine organisation qui se met en place de résistance sur place qu'on n'avait pas vu au tout début.
Cette organisation, on va le voir plutôt en deuxième partie d'émission pour voir comment tout ça s'organise. Pour revenir sur justement ces mots tabous sur l'élimination de la surveillance du climat, depuis la mi-février, si vous vous rendez sur le site de la Maison Blanche, le message Error 404 apparaît sur la page qui est consacrée au changement climatique. Cette page s'est évaporée. Ami Dahan, du côté de la NOAA, l'agence américaine, l'agence phare de la science climatique, pourrait perdre 20% de ses effectifs. 20% d'effectifs en moins, ça va évidemment impacter la capacité de la science américaine et donc internationale à rester à la pointe des connaissances climatiques.
Bien sûr. Moi, je crois vraiment que la question de la dénégation de ce qu'on peut appeler la mutation climatique, c'est-à-dire à la fois le changement climatique, mais aussi cette mutation qui l'entraîne, cette crise écologique générale, qui n'est pas simplement celle de l'effet de serre, mais qui met en œuvre, si on peut dire, pour connaître cette mutation, toutes les sciences de la durabilité. Et c'est ça qui est un ennemi de Trump et de son groupe qui s'est emparé du pouvoir depuis janvier. Et de fait, je crois qu'on n'insiste pas suffisamment sur le fait que cette dénégation, elle est au cœur du projet de Trump. Elle est au cœur vraiment de cette prise de pouvoir de ce groupe. Parce que ce soit les libertariens de Vance, le maître à penser Peter Thiel, etc., que ce soit Musk lui-même qui a été lié à eux, et que ce soit Trump qui a fait tout son business sur l'immobilier et la construction de tours immenses, etc., quelque chose qui a mobilisé tous ceux qui avaient gagné un argent fou avec le pétrole à la fin du XXe siècle et au début au tournant du siècle, avec la crise pétrolière d'abord, la première, et ensuite avec voilà, la guerre d'Irak et tout ça. Donc il y a eu une augmentation du prix du pétrole et tous ces manias du pétrole ou ces gens qui ont utilisé ça veulent toujours que ça, c'est une manne dont ils ont besoin pour vivre, pour continuer à gagner de l'argent, pour se développer. Et c'est ça leur business avant tout. Et c'est ça qu'ils veulent garder. Et donc cette mutation-là est... Comme je me plais souvent à citer Bruno Latour dans Où atterrir, qu'il a écrit en 2017 lors du premier moment Trump. Déjà, il l'avait identifié en disant cette dénégation de la mutation climatique, ça va avec le refus de la mondialisation au sens de s'occuper de tout le monde, faire des échanges, etc. Non, on se replie, on tient des territoires, on tient des lieux, et c'est là qu'on se développe. Et c'est un peu aussi le ce que veulent les autres. Et aussi, c'est aussi la sécession des plus riches, qui ne s'occupent plus du reste de la population. C'est-à-dire, voilà, Trump, c'est un peu ça.
Cette dénégation de la question climatique, ça passe dans les faits concrètement. On a donc Donald Trump, son cabinet, qui a donc ordonné à la NOAA d'interrompre de nombreux programmes de recherche, le lancement de ballons météorologiques en Alaska, de renoncer au financement dont l'intitulé mentionne le changement climatique. On a aussi du côté de l'Agence fédérale de protection de l'environnement une coupe budgétaire de 65% qui est déjà prévue. Dominique Costial-Lelac, on peut aussi se pencher sur les agences fédérales de santé et de recherche en biomédicale.
Donc, cette semaine, les renvois ont été effectifs pour un grand nombre de personnes qui dépendent donc du ministère de la Santé, que ce soit au NIH, National Institute of Health, l'Institut National de la Santé,
qui est à la fois... Le plus grand bailleur de fonds publics de la recherche biomédicale au monde.
D'une part, mais d'autre part, qui a aussi de la recherche qu'on appelle intramuros, donc des laboratoires qui font de la recherche au sein du NIH directement. Donc là, environ 10 000 personnes ont été renvoyées, quoi. Et aussi au Center for Disease Control, qui est à la fois l'organe de surveillance de la santé aux États-Unis, mais qui conduisait également des recherches, notamment en matière de prévention. Et donc cette semaine, on a vu la clôture complète du département sur la prévention du VIH, des maladies sexuellement transmissibles, de la tuberculose et des hépatites. Donc il n'y a plus personne qui travaille au jour d'aujourd'hui sur la prévention de ces maladies. Et de la même façon, on a renvoyé la directrice du département qui s'occupe des maladies infectieuses au NIH, qui avait succédé à Anthony Fauci quand il est parti à la retraite. Et on a aussi renvoyé la personne qui s'occupait de recherche clinique, donc avec qui, par exemple, en France, on interagissait beaucoup pour tous les essais cliniques qui ont été faits sur toutes les maladies infectieuses émergentes dans les années récentes. On peut citer Ebola, la fièvre de Lassa, Mpox. Donc il y avait une coordination internationale pour conduire les recherches dans ce domaine. Bah, tout ce département-là, le responsable a été renvoyé cette semaine.
Mais d'ailleurs, Dominique Costaluer, on observe déjà des conséquences avec, depuis plusieurs semaines, une épidémie de rougeole dans le sud-ouest du pays.
L'épidémie de rougeole, elle est liée au fait qu'il y a beaucoup de personnes... La rougeole, pour, réussir à contrôler... C'est une maladie pour lequel l'immunité dure toute la vie. Mais c'est très, très transmissible. Donc, pour réussir à ce qu'il n'y ait pas d'épidémie de rougeole, il faut une couverture vaccinale qui soit supérieure à 95%. Donc, on en est loin. Et on a l'impression que, vous voyez, dans un cas comme ça, normalement, ce qu'on ferait, c'est qu'on déploierait des programmes de vaccination pour contrôler l'épidémie. Or, il ne se passe rien. Et donc, en ce moment, l'épidémie est en train de s'étendre. Elle est partie du Texas, elle s'étend maintenant aux États voisins et avec des cas supplémentaires toutes les semaines, des décès liés à cette épidémie. Donc, c'est quelque chose de catastrophique.
Oui, il ne se passe rien, en effet, avec un ministre de la Santé anti-vax. Trois petits points. Alors, quelles seront les conséquences internationales de ces attaques contre les sciences ? Restez avec nous.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture, nous parlons du démantèlement des sciences de l'autre côté de l'Atlantique. Nous venons d'évoquer la chronologie d'une destruction de la recherche états-unienne. En quelques mois, l'administration Trump est allée déjà bien plus loin qu'en 2017. Pour reprendre une citation de la climatologue Valérie Masson-Delmotte, ce sont toutes les sciences de la durabilité qui sont visées, toute la recherche fondamentale qui pourrait nuire au business as usual et ralentir l'essor des énergies fossiles au profit des nouvelles technologies propres. Bernard Lahire, il y a aussi quelque chose auquel on assiste en ce moment, c'est quand même cette ère de la post-vérité. Vous avez fait une tribune dans laquelle vous parliez justement de relativisme.
Moi, je suis content que, en fait, les gens se réveillent en disant, la science, ça dit quand même de la vérité, même si on peut discuter et on discute entre nous de cette vérité. Elle est toujours temporaire. C'est jusqu'à plus ample recherche et ainsi de suite. Mais quand même, là, on voit qu'on attaque des vérités qui font consensus dans les communautés et dont ne veulent pas entendre parler les gens de l'administration Trump. Là, on voit bien dans ce moment qui est quand même assez hallucinant, hein, quand même pour tout le monde. Tous les scientifiques du monde entier sont quand même très très étonnés de ce qui est en train de se passer. En fait, on voit le lien entre démocratie et vérité. Et on voit le lien entre régime autoritaire qui est en place à l'heure actuelle et ce refus de vérité. Puisque pour revenir au point du tout début sur le macartisme, effectivement, c'est pas pour des raisons politiques. Essentiellement qu'il attaque les chercheurs, c'est pour des raisons scientifiques. C'est parce qu'ils produisent des connaissances vraies dans un état donné de cette vérité, mais ils produisent des vérités qu'il ne veut pas voir. Et donc il invente des mensonges qu'il appelle vérité. Donc il inverse tout. Ce qui est d'ailleurs assez étonnant, c'est qu'on voit bien que la manière dont il parle des gens qui, par exemple, dans les musées, rappellent l'histoire de l'esclavage, rappellent l'histoire des Amérindiens, etc., il appelle ça de l'idéologie. C'est-à-dire qu'il inverse tout. C'est évidemment lui qui est idéologue et des historiens qui ont contribué à monter ces expositions pour rappeler l'histoire des États-Unis. C'est l'histoire de l'esclavage, de l'exploitation de certains peuples, de destruction de culture, etc. C'est pas pour faire du mal aux États-Unis, c'est juste pour connaître l'état réel du monde. Et ça, il veut pas en entendre parler, mais il appelle ça de l'idéologie. Donc on voit l'inversion. Et c'est ça, le signe d'un pouvoir autoritaire, c'est qu'il inverse tout.
Et on peut citer 1984 d'Orwell, qui est tout régime dictatorial a intérêt à empêcher la vérité.
C'est exactement ça.
Ami Dahon, on fait face quand même à un paradoxe, parce qu'on parle de business as usual, tout ça. Enfin, la recherche biomédicale, c'est aussi un moteur économique puissant dans le pays. Sur le site internet, les NIH rappellent que chaque dollar qu'ils dépensent génère environ 2,46 dollars d'activité économique. C'est un paradoxe de geler une telle activité.
Oui, c'est un paradoxe. D'ailleurs, il y a des choses où on voit bien que les États-Unis, en ce moment, sont en train de détruire un capital qu'ils ont, de façon un capital à la fois politique et même géopolitique, avec la suppression, par exemple, de USAID. On s'aperçoit quand même qu'ils donnaient de l'argent, qu'ils participaient à des programmes de santé, de protection des femmes, par exemple, contre des maladies au moment des naissances, etc. Toutes ces questions. Et bien sûr aussi détruire un capital scientifique de recherche qu'ils ont accumulé pendant des dizaines d'années. Et là, alors en ce qui concerne le climat par exemple, on sait que tout ce qui est l'accumulation des sciences climatiques, parce que il y a toujours eu les fabricants de doutes aux États-Unis, mais aussi, les plus grands scientifiques et les plus grands climatologues étaient américains. C'est-à-dire que Charney, en 1979, quand il fait son rapport pour le président des États-Unis, eh bien, il y a déjà des résultats qui sont considérés comme tout à fait, on ne les a pas dépassés aujourd'hui. Sur la fourchette de sensibilité du climat au doublement de CO2, il a donné la bonne fourchette, etc. Sur les hausses de température. Donc là, tout ça, on est en train de démanteler ça.
Mais j'essaye de comprendre pourquoi.
Oui. Enfin, ça paraît contradictoire, parce que justement, on ne veut pas On ne veut pas aujourd'hui que sur la question du climat, il y ait une science qui avance, qui progresse, qui établit de plus en plus largement des faits et aussi des façons qui suggèrent des façons de s'opposer à cette tendance et d'essayer de la contrer, etc.
Il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, c'est le mot capitalisme. En fait, c'est depuis le début, enfin, tous les collègues hein, dans des domaines très différents, ils voient bien les intérêts économiques qu'il y a derrière. S'ils ne veulent pas que ça se disent, c'est parce qu'ils ne veulent pas faire quelque chose qui ralentirait leur activité économique. Et c'est du capitalisme. Et du capitalisme, ça veut dire qu'on ne veut pas que le taux de profit diminue.
Dominique Costa-Aliola, ce qui se passe aux États-Unis n'est pas un cas isolé.
Il y a aussi il y a d'autres pays finalement où on voit des attaques disons peut-être dans une moindre mesure mais malgré tout comme par exemple en Argentine. On voit même aussi dans un pays plus proche de nous avec la participation d'un certain nombre de partis d'extrême droite au gouvernement comme même dans un pays comme les Pays-Bas il y a des enjeux. Et bien sûr, même si, il n'y a pas une idéologie mise en avant comme c'est le cas aux États-Unis, on voit qu'en France, le budget de la recherche a été considérablement amputé dans le budget de l'année dernière et à nouveau dans le budget qu'on a eu cette année, à nouveau une amputation importante. Donc forcément, on n'est pas dans la même situation, mais les germes sont en marche pour aller vers finalement moins de science et forcément aussi moins de liberté pour les chercheurs quand on est à la course au financement.
Dans ce contexte scientifique de collaboration internationale, à mi-d'un, quels vont être concrètement les effets sur la recherche scientifique et notamment pour les sciences du climat, par exemple, je pense au rapport du GIEC, le 7e rapport qui est attendu avec ce qui se passe également en ce moment avec Catherine Calvin, scientifique en chef à la NASA, co-présidente du groupe du travail 3 du GIEC, qui vient d'être licenciée.
Évidemment, ça c'est absolument catastrophique parce que elle n'a même pas eu le droit d'aller assister à l'Assemblée générale, des membres du GIEC qui parlaient des perspectives du 7e rapport, etc. Parce qu'on est quand même au début de ce 7e rapport et on sait que. Parce que là, on peut pas faire l'économie de la situation géopolitique générale. Il faut bien voir ça aussi. La situation géopolitique générale, c'est-à-dire qu'elle a été renvoyée, destituée par le gouvernement américain. Et en même temps, il y a une autre vice-présidente du GIEC qui est une personne de l'Arabie Saoudite qui faisait pendant des années partie de la délégation de l'Arabie Saoudite. Donc complètement liée aux industries fossiles. Donc là, on a une institution, le GIEC, qui est attaquée de deux façons complètement différentes, évidemment, mais qui quand même doit, à mon avis, faire un examen très important, en particulier le groupe 3, qui est censé donner les solutions aux problèmes climatiques, et dont on voit que, voilà, il est, pénétré de l'intérieur par des forces qui veulent le dynamiter, parce que l'Arabie Saoudite, elle veut pas de bien au GIEC, mais aussi, évidemment, par Trump, qui est d'ailleurs en alliance avec eux, et parce que c'est ça, il y a une alliance aujourd'hui avec les pays fossiles.
Il y a en effet cet aspect des solutions climatiques. On a aussi un problème vis-à-vis des données climatiques.
Ah oui, j'ajoute juste un petit mot, c'est vrai. Il y a 23 modèles aujourd'hui à l'échelle mondiale qui tournent pour la planète. Les 23 modèles, et il y a des programmes d'intercomparaison de ces modèles. Et les ordinateurs et les modèles américains, il y en a une dizaine sur les 23. Les autres, la France en a deux, d'autres pays en ont un, etc. Et donc c'est très important, c'est la moitié de la recherche mondiale pratiquement. Et bien là, on ne pourra pas faire ces intercomparaisons, dialoguer, avoir la science en particulier d'un problème comme ça, c'est vraiment international, c'est vraiment une intercomparaison, des échanges, etc. Et si on n'a plus ça, eh bien on a une suspicion très grande de ce qui va par rapport aux résultats.
Mais je pense la NOAA et son une partie entre autres on assiste un peu au démantèlement de la NOAA. On pense à sa flotte de flotteurs qui est très utile même pour l'Ifremer en France pour mesurer justement les émissions de gaz à effet de serre. La perte de ces relevés, ça va nuire au modèle météorologique du monde entier et à la recherche. Dominique Costialiola, concrètement également, quelles vont être les conséquences du côté de la recherche vis-à-vis de la recherche en médecine?
Comme vous l'avez rappelé, c'était le plus grand bailleur mondial qui va totalement changer les projets qu'il finance. Et puis, pour l'instant, les gens sont complètement dans l'expectative, y compris les gens financés. Moi, je participe à deux projets qui sont financés par le NIH. Les gens ont reçu une demande de faire un rapport de ce qu'ils faisaient pour qu'on, entre guillemets, vérifie le caractère ou beaucoup non de leur recherche, qui était à une date pas du tout attendue. Et finalement, il n'y a aucune certitude que ces projets vont continuer à être financés. C'est des grands projets collaboratifs sur l'infection à VIH, comment ça se passe dans les différents pays du monde. Hein. On n'a aucune certitude que les projets vont continuer à pouvoir tourner. Et tout ce qui était, y compris la recherche, notamment sur l'implémentation des programmes de prévention dans les pays à ressources limitées, et notamment en Afrique, si je prends toujours l'exemple du VIH, parce que moi c'est sur ça que je travaille, tout ça a été en partie financé par des crédits de recherche, mais en lien avec des crédits USAID, ce qui permettait aux infrastructures locales de fonctionner. Comme il n'y a plus d'USAID, vous voyez, ça s'est terminé de facto. Et quand on voit qu'on a renvoyé les gens qui étaient responsables justement de tout ce qui était la recherche sur les maladies infectieuses au NIH et qu'on a viré tout ce qui était prévention au CDC, ça va forcément avoir des conséquences mondiales. On va forcément voir une remontée des cas d'infection à VIH. On va forcément avoir une augmentation des décès, alors même que les outils permettant d'arriver au contrôle de l'épidémie étaient en place et l'implémentation de ces outils sur les différents terrains était en cours. Donc, il y a vraiment des implications très directes, d'abord de recherches qui ne se feront pas, mais aussi sur la santé mondiale, au-delà de ce qui va se passer aux États-Unis, où la santé des personnes est aussi menacée par les démarches qui sont en cours.
Dominique Costello, en effet, ce qui est à craindre, c'est que des pans entiers de la recherche soient abandonnés.
Voilà, des domaines entiers. Et donc, vous voyez, en recherche, on progresse à la fois dans la collaboration et dans le challenge réciproque. Donc, à la fin, s'il y a 30 à 40% de recherche en moins mondialement, eh bien, c'est tout le monde qui perd quelque part. Vous voyez, indépendamment du fait que ce soit un tel ou un tel qui récupère des brevets, il y a le côté de collectivement faire des progrès pour permettre d'améliorer la santé des personnes. Avec 30 à 40% de recherche en moins, forcément, les choses vont aller moins bien. Hein. Les progrès sont quand même très dépendants d'avoir des financements et des financements qui ne soient pas ciblés sur une idée préconçue a priori et sur les choses qu'on a le droit de regarder et celles qu'il est interdit de regarder, évidemment.
Je vous vois, Bernard Lahire, faire la grimace derrière ce micro.
Non, mais on est tous atterrés, donc évidemment, on ne peut que faire la grimace. Du côté des sciences humaines et sociales, évidemment, les implications semblent immédiatement moins importante. On est moins internationalisé, il y a un peu moins de recherche, on va dire, dont le financement est d'origine états-unienne et qui aurait des conséquences sur nous, mais pas en matière de politique universitaire, on a quand même en France déjà des signes depuis un certain temps de critique de ce qu'on appelle le wokisme, que je peine souvent à comprendre moi-même. Souvent on travaille et on se dit bon, ça va passer et puis voilà, mais ça continue, on remonte avec ces choses-là, et là on a des secteurs entiers, enfin c'est les sciences sociales plus généralement qui sont soupçonnées de choses incroyables, et on se dit que aux États-Unis, les départements de sciences sociales vont quand même prendre cher, comme on dit, mais ça pourrait bien arriver aussi en Europe, en France notamment, et il y a déjà eu des petits signes avant-coureurs, pas très bon.
Mais quels sont ces signes justement et comment la lutte s'organise-t-elle en Europe? Restez avec nous. From my heart and from my hand, why don't people understand my intention? Science en direct sur France Culture, car nous parlons du mouvement anti-science qui touche les États-Unis. On en parle avec nos trois invités du jour. Amy Dahan, directrice de recherche émérite au CNRS, historienne des sciences spécialisée dans l'interaction entre sciences et politique au sujet du climat. Dominique Costa-Liolia, épidémiologiste, directrice de recherche émérite à l'INSERM et membre de l'Académie des sciences. Et Bernard Lahire, sociologue, directeur de recherche CNRS. On vient de voir comment Trump attaque les programmes collaboratifs contre le climat, contre la recherche en médecine. On vient de voir que cela aura des impacts sur la santé, par exemple. On a évoqué que toute une génération de chercheurs va être sacrifiée, que beaucoup de jurys d'attribution, de bourses de recherche ont été annulés ou reportés. Dans ce cadre-là, on voit le mouvement Stand Up for Science. Le 7 mars, c'était la première manifestation. Bernard Lahire, plusieurs manifestations qui ont eu lieu suite à l'appel du collectif Stand Up for Science. Mais globalement, on peut dire quand même que la riposte est assez faible par rapport à l'ampleur des attaques qu'on vient de décrire.
La riposte aux États-Unis, vous voulez dire, parce que en Europe, on est plutôt mobilisé. Ouais. Tout le monde, enfin, moi, j'ai entendu beaucoup d'émissions, y compris à France Culture, où les gens disaient, les chercheurs qui étaient invités disaient, on est étonné que nos collègues états-uniens ne réagissent pas plus. Ça commence à venir, mais c'est vrai que pendant un temps, on a parlé de sidération, on a parlé de peur, et je pense qu'il y a beaucoup de peur, et elle reste aujourd'hui. En revanche, en Europe, on a quand même plus souvent l'habitude de manifester, de descendre dans la rue. Moi, je pense que s'il y avait des décrets du même type en France, le lendemain, il y aurait des manifestations importantes dans la rue, ce qui n'a pas été véritablement le cas. Il y a eu des petites choses, mais enfin, pas grand-chose. Donc, l'Europe donne plutôt une bonne image en disant, mais c'est pas possible. Ils prennent la défense, offrent des possibilités aux chercheurs de venir. Après, moi, je pense qu'il faut être prudent aussi sur l'Europe, parce que l'Europe n'est pas le bon élève en matière de science. On a rappelé tout à l'heure les coupes budgétaires ahurissantes. Il y a 1,5 milliard de coupes supplémentaires cette année, ce qui est quand même monstrueux. On n'a jamais autant coupé. Donc, c'est pas de la censure idéologique, mais ça peut conduire à des effets à peu près similaires. Donc, il faut être prudent.
Dominique Costa-Liolia, par rapport justement aux réactions américaines, j'ai été surprise dans les témoignages de voir dans les journaux que la plupart de ces témoignages sont souvent anonymes.
Oui, bien sûr. Moi, j'ai été frappée puisque j'avais écrit pour préparer les interventions lors de la journée du 7 mars à plusieurs collègues, de voir la frisosité avec laquelle ils me répondaient. Finalement, j'ai vraiment qu'une personne qui a dit « on va se téléphoner ». Et donc, il n'y avait pas de trace écrite, hein, d'une certaine façon, de ce qui s'était passé. Et je pense que c'est la peur, je pense que c'est la sidération. Et les gens... J'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à croire que ça va leur arriver à eux. Voilà. C'est assez bête, mais j'ai l'impression que c'est une composante vraiment très importante. Après, on a déjà pas mal de gens qui, qui éventuellement se renseignent pour voir comment c'est possible, par exemple, de venir en Europe. Mais vous voyez, on peine déjà à recruter les nouvelles générations de chercheurs chez nous. On va pas réussir à solutionner ça en offrant quelques positions à des chercheurs prestigieux. Hein. Je pense que si on veut faire une réplique de ce type-là, il faut qu'elle soit coordonnée au niveau de l'Europe, en augmentant plutôt les crédits qui existent déjà pour certains appels d'offres européens, plutôt que de vouloir se lancer dans des initiatives cosmétiques en France, ou en tout cas si on fait des initiatives de ce genre, il ne faudrait pas que ce soit au détriment des recrutements qui sont déjà bien maigres.
Oui, parce que d'après un sondage paru dans la revue Nature, 3 chercheurs sur 4 songent à fuir les États-Unis. Certains prédisent carrément un exode de chercheurs états-uniens vers l'étranger. Alors comment la France peut-elle réagir face à ces décisions politiques délétères pour permettre aux scientifiques lésés de poursuivre leurs recherches? Des grandes institutions de recherche se mobilisent pour offrir des possibilités. C'est le cas de l'École des hautes études en sciences sociales. Pour le reportage du jour, Céline Lozen, vous avez rencontré son président. Bonjour Céline.
Bonjour Natacha. Oui, Romain Hurek est également historien des États-Unis et spécialisé dans l'étude de l'origine et des conséquences des inégalités au XXe siècle, appelle à une mobilisation collective, non seulement entre institutions et universités françaises, mais plus largement au niveau européen. Car selon lui, cette crise aux États-Unis pourrait se transformer pour l'Europe en opportunité de ramener ici les forces vives dans les secteurs impactés, des sciences sociales à la santé, l'environnement, le climat ou la biodiversité. À l'instar du brain drain lors de la Seconde Guerre mondiale où l'Europe a perdu ses plus brillants physiciens, l'histoire pourrait connaître un effet inverse à la faveur du développement et du progrès des sciences en Europe.
C'est extrêmement intéressant ce qui est en train de se passer, et c'est pas seulement le démantèlement de la recherche publique, c'est aussi le constat dans l'administration de Trump et de beaucoup de soutien de Trump que la recherche désormais se passe ailleurs que dans l'université publique et dans le secteur public. Et ils actent là, de manière extrêmement brutale, le fait que désormais, on fait de la recherche, on fait des statistiques ailleurs. On va en faire chez Google, on va en faire dans les GAFAM. Et donc, il y a une manière très cynique d'acter cette translation qu'on voit à l'œuvre depuis quelque temps. On voit bien que arriver à rivaliser en matière d'intelligence artificielle dans le secteur public, en France comme aux États-Unis, c'est très difficile. Aujourd'hui, Google et d'autres investissent de manière tellement puissante et tellement financée qu'il est très très difficile pour le secteur public de rivaliser. On n'arrive pas à embaucher les informaticiens, on n'arrive pas à les rémunérer, on n'arrive pas à les payer, on n'arrive pas à produire aussi statistiquement les mêmes calculs algorithmiques et autres. Donc il y a là aussi le constat très cynique que de toute façon la recherche publique n'est peut-être plus le lieu à investir. Et ce que je crains, mais ça c'est le scénario du pire, c'est que durablement, ces universités publiques, ces universités privées, ne soient plus le cœur de la production de savoir à la fin du XXIe siècle, et que là, on est en train d'acter que désormais les entreprises, et parmi elles les plus riches, sont capables de produire du savoir, de produire des statistiques, et de faire en sorte que ce savoir soit utilisé pour des politiques nationales. Et c'est ce qui est en train de se passer. Hein. Et à ce titre, Elon Musk est une figure à la fois fascinante et diabolique, hein, de ce qui est en train de se passer, puisque d'un côté il démantèle la production d'un savoir public, d'un savoir financé par l'État fédéral, et dans le même temps il accompagne cette translation vers des entreprises qui vont désormais financer la conquête spatiale à la place de la NASA ou produire des données algorithmiques ou de la recherche industrielle. Donc là il y a quelque chose de très profond qui est en train de se jouer et qui affectera de toute façon l'ensemble de la recherche dans le monde entier.
Après, il ne faudra pas non plus diaboliser ce lien public-privé. On sent que la recherche se transforme aussi. Les entreprises font la R&D dans l'industrie, le spatial, la pharmaceutique, donc beaucoup de domaines. Et ça, il y a un caractère vertueux. Mais là, vraiment, l'administration Trump s'attaque à l'université comme terreau idéologique, comme si c'était une fabrique de jeunes esprits. C'est très. On s'attaque vraiment là à la fabrique des esprits, finalement. Du coup, les dispositifs que l'EHESS peut proposer.
Alors, je vais peut-être vous décevoir, mais je pense que l'EHESS ne doit pas forcément proposer quoi que ce soit. Et je suis plutôt favorable depuis 2 mois à un programme d'action nationale et d'action européenne.
Impulser un mouvement.
Voilà, impulser un mouvement, tout à fait. Je pense que les actions individuelles et l'EHESS, Aix-Marseille, PSL, Dauphine, Beaucoup d'universités ont des projets individuels au cas par cas, mais je suis persuadé qu'on vit là un moment historique. On vit un retournement d'un cercle qui était vertueux. Et vous avez à juste titre rappelé l'alliance du secteur privé et du secteur public aux États-Unis, qui date de l'après-Seconde Guerre mondiale. C'est le modèle de l'opération Manhattan. Et on a vu aux États-Unis se créer une alliance extrêmement vertueuse entre les universités publiques ou privées, les entreprises, l'État et les fondations. Et ça a créé un dispositif extraordinaire de financement de la recherche, hein, avec des effets exceptionnels, puisque les États-Unis sont devenus, dans les années 50, le cœur de la recherche scientifique mondiale. Donc ça a très bien marché. Là, de manière étonnante, Trump est en train de démanteler cela en s'attaquant aux universités, en s'attaquant aussi aux fondations, et notamment sur les thématiques comme le genre, les discriminations et les inégalités. Il voudrait s'attaquer à la possible défiscalisation de l'argent qui est donné. Et donc l'Europe, qui a été aussi un peu responsable de ce cercle vertueux en poussant ses plus brillants cerveaux à partir dans les années 20 et 30, hein, dans un contexte de grande tension à l'intérieur des pays européens, de montée des périls, de montée du nazisme. On a vu des grands scientifiques autrichiens, allemands, russes.
Impliqués dans le projet Manhattan.
Impliqués dans le projet Manhattan. Einstein, Oppenheimer et d'autres sont allés s'installer aux États-Unis et sont restés aux États-Unis. C'est-à-dire que non seulement le pays les a accueillis, mais ils sont restés parce que les conditions de travail était tout simplement exceptionnel.
Donc on peut s'attendre à un effet inverse, un effet boomerang.
Je souhaiterais qu'il y ait un effet inverse, c'est-à-dire que l'Europe, que la France comprenne qu'il serait très important, je crois, d'investir massivement dans la recherche.
En a-t-elle les moyens financiers
Là, la mobilisation, elle doit être générale, des entreprises aux fondations, à l'État français et aux États européens. Moi, je serais très favorable à ce que toutes les universités françaises, l'État français, les États européens envoient signal et en se mobilisant, comme on a pu le faire pour l'armement, hein, on a créé une Europe de l'armement, il faudrait en complément créer aussi une Europe de la recherche, de l'enseignement supérieur pour attirer ces talents. Il y a une chance historique là autour de thématiques sur les océans, le climat, l'énergie, l'environnement, la recherche médicale. Donc je pense que pour en revenir peut-être à l'espoir d'une Europe de la science, il faudrait aussi que cette Europe de la science intègre la nécessité de reconquérir l'opinion publique, retourne vers la population, trouve des lieux de médiation scientifique. Moi, j'y suis très très favorable comme président de l'HESS. Hein. Il faut absolument qu'on se mobilise collectivement pour contrer ce qui, à terme, hein, pourrait être une vraie régression des États-Unis et de l'humanité.
Merci Céline Lozen. Tous nos reportages en immersion sont à retrouver en podcast dans la collection La Science au Labo sur l'appli Radio France. Ami Dahan, pour compléter ce qu'on vient d'entendre, selon vous, on va assister à un nouvel épisode de fuite des cerveaux?
Vous voulez dire des États-Unis vers l'Europe?
Exactement.
Je crois que ça dépendra aussi effectivement des initiatives européennes et de ce que l'Europe sera capable d'offrir, parce que c'est sûr que ça coûte très cher et que, comme on l'a dit entre nous déjà, il y a beaucoup de manques dans nos pays en ce qui concerne le développement de la science. Et donc, il faudrait que ce soit effectivement quelque chose de perçu comme aussi important que l'Europe de l'armement et de la défense sans les États-Unis contre Poutine et les périls qui viennent de l'Est. Mais pour le moment, c'est pas vraiment à l'ordre du jour, malheureusement. Et en ce qui concerne, par exemple, les savoirs qui sont liés à la transition écologique, enfin, voilà, à l'idée de répondre justement aux risques climatiques qu'il faut reconnaître comme réels et existants et un défi absolument majeur. Pour le moment, on n'a pas du tout un accord aussi net, aussi de tous les gouvernements européens, enfin presque tous, et donc avec l'idée qu'on va le faire. Aujourd'hui, par exemple, pour moi, une des batailles, c'est en Europe, c'est de savoir si on va faire l'Europe de la défense en abandonnant le Green Deal ou en le gardant et le renforçant et se donnant d'autres composantes liées justement à l'effort scientifique et technique. Et c'est pas gagné. J'espère que nous, en tout cas, c'est quelque chose que auquel moi je veux m'attacher à défendre, etc. Mais c'est pas encore présent dans le débat public.
Je rebondis également sur un autre point qu'on a entendu dans ce reportage, Ami Daon. Est-ce qu'on peut imaginer que les universités américaines, alors qu'elles sont les meilleures au monde, vont être détruites?
Non, moi je ne crois pas ça. Pas tout de suite. C'est pas possible.
Pas tout de suite.
Enfin, je veux dire, pas tout de suite, au sens, il faudrait beaucoup de temps quand même, parce que, bon, il faut voir quand même que dans le classement de Shanghai, sur les 20 premières, elles ont 17 places, je crois. Ou 16 ou 17 places. Donc c'est incroyablement, c'est un capital énorme. Donc, on ne peut pas dire que tout est déjà... Simplement, on n'a pas vraiment discuté, par exemple, ici, des intimidations, de la violence qui existe autour des universités et des milieux universitaires. Moi, je discute avec des collègues de Harvard, etc., et certains Français qui sont entre Harvard et Paris, par exemple, ils me disent... nos collègues américains, qu'on connaît depuis 20 ans, ils ont peur, mais il y a aussi des milices, des choses d'intimidation, on tague des choses autour de là où ils habitent, et donc ils ne veulent pas parler, ils disent surtout rien par écrit, rien dans les WhatsApp, rien dans les... etc. Donc, on est quand même en train, peut-être, de dépasser ce premier moment, qui a été un moment où, voilà, ils ont fait le dos rond, ils n'ont plus bougé, etc. On commence à voir déjà des reculs un petit peu, hein, je ne veux pas être du tout triomphaliste, malheureusement, mais bon, on a vu, par exemple, dans le Wisconsin, Musk qui a eu une défaite, etc., des démocrates qui ont repris un petit peu du terrain dans des élections, et des premières manifestations. On va voir déjà la journée d'aujourd'hui. Le 7 mars, il y a eu 15 000 personnes qui ont défilé aux États-Unis et 15 000 à Paris, en France. Donc voilà, c'était pas encore du tout ce à quoi on pouvait espérer. Mais bon, on est un mois plus tard, ou presque, 3 semaines plus tard, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Bon, je crois que voilà, c'est un petit peu ça les choses.
Dominique Costaglioli, on arrive enfin de discussion, mais on a parlé des agences fédérales et des coupes budgétaires, on a parlé des universités, on a très rapidement mentionné les fondations. La recherche est pas mal financée également par les fondations privées aussi aux États-Unis. Alors, dans ce contexte, que peut-on imaginer pour la suite ?
Oui, j'allais dire que, en fait, pour les universités, ça dépend vraiment de leur structure financière, de leurs fonds propres, du soutien qu'elles obtiennent de fondations et de la façon dont elles dépendent ou non des crédits publics. On voit bien, quand il y a des attaques massives, comme à l'Université de Columbia, dont on a coupé l'ensemble des crédits de recherche, ils sont là en train de céder. Hein. D'autres universités ne font pas ça et font autrement, mais parce que ils ont une capacité financière probablement meilleure. Dans un univers, en fait, avec plein de menaces, où on voit finalement un certain nombre de gens se mettre en conformité par avance à une politique générale, on peut complètement s'interroger sur le maintien des priorités qu'auront certaines fondations. Dans mon domaine, celui des sciences biomédicales, je pense par exemple à la fondation Gates. Vous voyez, c'est pas si sûr que la fondation Gates va rester droit dans ses bottes pour continuer à financer des programmes d'implémentation, de prévention dans les pays à ressources limitées. Bon, je m'interroge, hein, franchement, compte tenu de certaines des déclarations qu'on a entendues du président. Voilà, on a vraiment une zone d'incertitude parce que aussi, il y a des moyens de pression, hein, qui est que les allègements fiscaux liés à ces fondations ne persistent que si on est conforme à la ligne qui dit aucun programme de diversité, équité et inclusion, hein. Oui, vous voyez, c'est ce genre de choses qui peut arriver. Donc, pour moi, il y a des gros points d'interrogation et j'ai l'impression qu'il faut pas croire que ces moyens ne seront pas utilisés par le gouvernement Trump. Ils vont les utiliser, c'est sûr.
Bernard Lahir.
En fait, moi je suis un petit peu gêné des fois sur la question de l'opportunité qui a été évoquée dans la bouche du président de l'École des hautes études en sciences sociales. Opportunité, c'est un peu cynique. Je pense qu'il faudrait faire attention aux mots qu'on utilise parce que d'une part, il y a plein de doctorants, post-doctorants qui sont pas très connus et qui vont pas bénéficier sans doute, sauf exception, parce qu'ils ont déjà été repérés comme faisant partie de programmes importants, etc. Mais l'idée que l'Europe pourrait en profiter, moi je trouve que on participe au problème en voyant les choses comme ça, parce que on est dans une situation de concurrence en se disant c'est une opportunité pour l'Europe de reprendre la main, mais on fait pas mieux que Trump, je dirais, si on pense comme ça. Si, mais moi je pense non, il faut pas avoir ce genre de raisonnement, parce que dire que c'est une opportunité, non, c'est une catastrophe états-unienne. Nous devons tout faire pour essayer d'accompagner ça et d'aider nos collègues, mais je pense pas qu'il faille penser en termes de nous avons une chance historique de reprendre la main sur le plan mondial d'un point de vue scientifique. Non, c'est pas comme ça que les choses doivent être vues et conçues. Et donc voilà, moi je suis très prudent.
Eh bien merci pour ces mots de la fin. Comme tous les jours, on retrouve la chronique d'Alexandre Morales. Mais merci à vous trois, merci de nous avoir fait comprendre comment les décisions politiques ont un impact sur la recherche scientifique et sur la production des savoirs. Maintenant, comment agir par la pensée avec une interface cerveau-machine? C'est tout de suite avec la chronique Avec Science.
Comment renforcer l'efficacité des interfaces cerveau-machine? Contrôler des machines par la force de notre pensée, ça fait rêver, en particulier les personnes atteintes de troubles moteurs. En Europe, quelques patients paraplégiques bénéficient déjà de ces implants cérébraux pour récupérer la capacité de marcher, notamment. Mais ici, nous allons plutôt nous concentrer sur des interfaces cerveau-machine pour la récupération de la parole pour des patients qui ne peuvent plus communiquer. Alors, sur notre continent, c'est assez peu développé, mais les États-Unis sont plus en avance et quelques personnes y ont déjà reçu des implants. Elles souffraient de dysarthrie, c'est-à-dire qu'elles avaient des difficultés à articuler, mais elles pouvaient tout de même planifier l'articulation, donc en quelque sorte informer la machine de leur intention articulatoire de parole. Alors pour communiquer avec une machine, tout passe par le transfert de signaux électriques du cerveau à un ordinateur, mais il faut quand même que la machine décrypte ces signaux et pour ça, on entraîne des intelligences artificielles. C'est un sujet important de recherche, mais ce qui est moins étudié, c'est le fait d'entraîner les humains qui tentent de communiquer. C'est le sujet d'une nouvelle publication parue dans Communications Biology. Nous en parlons avec la dernière autrice de ce papier, Annelise Giraud. Elle est professeure à la faculté de médecine de l'Université de Genève, directrice de l'Institut de l'audition de l'Institut Pasteur et directrice de l'Institut hospitalo-universitaire Reconnect.
Dans ces interfaces cerveau-machine, il y a deux types d'apprentissage. Il y a l'apprentissage de la machine, de l'information neuronale qui est envoyée par le sujet, et il y a l'apprentissage du sujet qui va lui-même optimiser ses performances en fonction des performances de la machine. Donc c'est vraiment une boucle fermée, et donc tout l'intérêt effectivement de cette publication, c'est d'arriver à comprendre ce que le sujet va pouvoir faire, enfin comment il va pouvoir transformer son information neurale au cours de plusieurs jours d'apprentissage, en fait. L'autre intérêt de l'étude, c'est que nous, on travaille sur l'intention de parole et non pas sur la parole sous-articulée, ce qui est plus compliqué que ce dont je vous ai parlé au début, en parlant des personnes dysarthriques qui n'étaient pas complètement aphasiques. Donc là, nous, on étudie que la parole pensée, c'est-à-dire pas la parole sous-articulée.
Alors pourquoi avoir choisi de se concentrer uniquement sur l'intention de parole? D'abord, pour aller plus loin que ce qui se fait actuellement. Ensuite, parce qu'il existe et qu'il faut pouvoir traiter des personnes complètement aphasiques, donc incapables de parler et même de pré-articuler. Et puis aussi parce que la parole imaginée permet d'autres possibilités d'interfaçage avec la machine. On peut placer par exemple des électrodes non pas sur les zones motrices du cerveau qui déclenchent la parole, mais aussi sur les zones sensorielles. Et oui, si vous imaginez que vous entendez un son, ce sont les zones impliquées dans l'audition qui vont s'activer. Alors, quel était leur protocole? Les chercheuses ont demandé à 15 volontaires de s'imaginer prononcer deux syllabes éloignées phonétiquement l'une de l'autre, Guy et Faux. Le signal électrique capté par la soixantaine d'électrodes placées sur leur crâne était analysé en temps réel par un ordinateur, et le niveau de reconnaissance de la syllabe par la machine était matérialisé par une jauge sur un écran. En gros, les participants voyaient en temps réel à quel point la machine reconnaissait les syllabes qu'ils imaginaient. Quand la jauge était verte, c'est qu'ils faisaient du bon travail.
Dans l'article, on a une expérience contrôle complémentaire où ce feedback, on le perturbe intentionnellement. Et on voit que lorsque le feedback est perturbé, l'apprentissage est beaucoup moins bon, ce dont on se doutait, mais c'est bien de le prouver. Le premier constat, c'est que tout le monde n'est pas du tout égal dans sa capacité à interagir avec une interface cerveau-machine. Globalement, on a une amélioration des performances si on met tous les sujets ensemble. Et chez certains sujets, on a une amélioration vraiment très belle et très significative des performances avec 5 jours d'utilisation. Donc, dans le cas qui nous intéresse au final, qui est une personne qui serait totalement aphasique, disons, et qui aurait des électrodes dans son cerveau, on peut imaginer qu'avec une utilisation chronique sur plusieurs semaines, plusieurs mois, on arriverait à des résultats vraiment parfaits.
Cette étude souligne l'importance jusqu'ici méconnue de l'entraînement des personnes qui sont connectées à la machine. À la manière dont on devient de plus en plus aguerri en pratiquant une activité physique, on peut, grâce à ce retour visuel, renforcer l'activité neuronale de la zone impliquée. D'autres études seront encore nécessaires, mais l'objectif est à terme de pouvoir rendre la parole à ceux qui l'ont perdue grâce à un implant cérébral.
Merci Alexandre pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la science CQFD, Eve Etienne, Céline Lausanne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Louanger, Antoine Beauchamp, Loïc Dutoit, à la réalisation Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui, Jordan Fuentes. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.